CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Bonjour, bonjour à tous, suite de nos visites des lieux remarquables de Rodez, aujourd'hui avec l'Office de Tourisme du Grand Rodez, Annabelle, guide conférencière, nous emmène à la cathédrale.
CFM, sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
On est pratiquement au pied du clocher et aujourd'hui on va s'intéresser aux parties basses.
Donc en bas des 87 mètres.
Voilà, c'est ça, exactement. Complètement au pied du clocher. Alors là nous sommes sur la place qu'on appelle Place d'Estaing qui se prolonge par la place Emma Calvé. On est donc à la tête en quelque sorte de la cathédrale, le chevet de la cathédrale, et on a une très belle vue sur notamment les gargouilles nous dominent, les massifs aussi, les contreforts qui ornent la tête de la cathédrale. On va entrer à l'intérieur de cette cathédrale pour découvrir toute la majesté de son architecture et également tous les éléments mobiliers, tout le décor que l'on peut voir, parce que cette cathédrale présente des éléments très divers et d'époques très différentes.
Tu me parles d'époque, là, ces gargouilles que je vois au-dessus de ma tête, c'est dans les morceaux anciens ou dans les morceaux plus récents de la cathédrale ?
Alors, il faut savoir que la cathédrale de Rodez, elle est construite en grès. Le grès est une pierre qui est très fragile, qui s'abîme avec la pluie, le vent, les écarts de température entre l'hiver et l'été. Et donc, très régulièrement, on est obligé de restaurer, de remplacer les pierres qui sont très abîmées. Parmi les pierres qui sont les plus exposées justement au vent, au gel, à la pluie, il y a les gargouilles. Et vraisemblablement, les gargouilles que l'on voit aujourd'hui ne sont pas d'origine, ou du moins une très grande majorité ne sont pas d'origine. Lorsqu'on est sur les planètes, donc les terrasses qui couvrent les bas-côtés de la cathédrale, on a quelques gargouilles anciennes qui ont été déposées, que l'on peut voir. Et quand on regarde ces gargouilles, on a l'impression qu'elles ont complètement fondu. Elles ont été complètement effacées, gommées par l'assaut de la pluie, du vent. Donc quand on voit une gargouille avec beaucoup de détails, en général, il faut imaginer qu'elle n'est pas d'origine, qu'elle a été refaite, remplacée.
Donc comme les deux là qui est au-dessus de nous.
Par exemple, oui.
C'est quoi d'ailleurs comme bestiaux ?
Alors les gargouilles justement, ce sont en général des représentations de créatures fantastiques, créatures imaginaires. On représentait des animaux en s'amusant à mélanger en quelque sorte des animaux connus. Alors par exemple, on peut avoir un lion avec des ailes d'aigle ou inversement un aigle avec un corps, des pattes de lion. On s'amuse à créer des animaux fantastiques, des animaux imaginaires. Il y a également des personnages qui se cachent parmi les gargouilles, notamment lorsque l'on fait le tour du clocher, il y a un petit personnage qui fait une grimace.
Ah d'accord, bah, tu vas montrer ça. Voilà. Bon, on part pour un tour complet de la cathédrale.
Voilà.
Et on a démarré, ça a un nom là, tu m'as dit la tête ?
Ce qu'on appelle le chevet, quand on voit, vu de l'extérieur, c'est le chevet, c'est vraiment en quelque sorte la tête de la cathédrale. Et ces parties-là sont les parties les plus anciennes. Quand on a construit la cathédrale, on a commencé de ce côté. On a continué, on a avancé petit à petit pour terminer la cathédrale côté ouest.
Côté place d'Armes.
C'est ça.
Allez, on y va. Alors attends, je me rapproche du bord parce que là, il y a la grille. Non, je regardais si c'était profond, il y avait une tranchée.
Voilà, il y a une petite tranchée. Bien sûr, il faut s'imaginer que le sol sur lequel on marche aujourd'hui, c'est pas du tout, on n'est pas au niveau du sol médiéval, sol qui remonte à la construction. D'ailleurs, la place où nous étions, à l'origine, au Moyen-Âge, ce n'est pas une place, c'est un cimetière.
Ah bon ?
Les cimetières sont toujours aménagés le plus près possible des lieux de culte, église ou cathédrale. Donc la place d'Estaing, c'était un ancien cimetière, tout comme la place Adrien-Rosier, là où se trouve aujourd'hui l'hôtel de l'agglomération, l'hôtel de la communauté d'agglomération du Grand Rodez, c'était un cimetière. Ces cimetières, ils ont été sortis en quelque sorte de la ville dès le XVIIIe siècle, à une époque où on essaye d'aérer, d'assainir un peu le centre ancien. Et là, on va réaménager ces espaces autour de la cathédrale, mais les cimetières sont aménagés à l'extérieur de Rodez.
Alors on arrive côté jardin des évêchés.
Voilà, on arrive côté palier de l'évêché. Donc on a contourné le clocher, on se trouve pratiquement en face de l'évêché, et ici on a une gargouille, un petit personnage qui fait une grimace.
Ah, le petit bonhomme là.
Voilà, c'est le deuxième personnage, la deuxième gargouille quand on part de la gauche, donc au-dessus plutôt de la deuxième fenêtre quand on part de la gauche. Voilà, on a ce petit personnage qui semble tirer la langue. Avec sa main, il tire sur sa joue ou sur son oreille. Voilà, il est en train de faire une grimace.
Bon, là, on arrive près de la... C'est la porte principale.
Voilà, on arrive près d'un des portails. Il y a deux portails.
Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Moi, je suis parisien. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'entrée, elle est sur...
Façade occidentale. Alors, c'est vrai que c'est une particularité à Rodez. On entre dans la cathédrale par deux portails qui ont été aménagés sur les côtés. Si on a en tête, effectivement, Notre-Dame de Paris, on a un très beau portail aménagé façade ouest, façade occidentale. Et c'est vrai que, généralement, on entre dans une cathédrale par un portail aménagé dans la façade ouest. Ce n'est pas le cas à Rodez. Et d'ailleurs, quand on se trouve face à la façade ouest, donc si on se place sur la place d'Armes, on a face à nous une cathédrale qui est très massive, qui a presque l'allure d'une forteresse. Et on n'a aucune ouverture. On a un mur quasiment aveugle. Dans les parties basses, il n'y a que deux petites ouvertures toutes fines qui font un peu penser par leur forme à des archères, des meurtrières. Et la seule grande ouverture, c'est la rosace qui se trouve en hauteur. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette configuration-là ? Il faut imaginer, au Moyen-Âge, donc, durant la guerre de 100 ans, on lance la construction d'un grand rempart, une muraille, pour protéger Rodez. Ce rempart, il s'est levé à l'emplacement des actuels boulevards, ce que l'on appelle le tour de ville. Si on regarde un plan de Rodez, on a une ceinture de boulevards qui entoure, qui enserre le centre ancien. Donc il faut imaginer ces remparts qui s'élevaient à cet endroit-là. Or, il se trouve que les remparts ont été construits avant d'achever la cathédrale. Quand on a terminé la construction de la cathédrale, en fait, on s'est aperçu que celle-ci était très grande. Elle débordait, elle dépassait les limites de la ville qui avait été définie par le rempart. Donc toute la partie ouest de la cathédrale a été intégrée dans les défenses, dans le rempart de Rodez. Voilà pourquoi on a cet aspect vraiment de forteresse, parce que l'avant de la cathédrale faisait partie des défenses de la ville. Et voilà pourquoi on entre uniquement sur les côtés. Il était hors de question de percer un portail d'entrée côté ouest, en cas de siège, on aurait pu entrer dans Rodez en passant par la cathédrale. Donc on a deux portails sur les côtés. Ici nous sommes devant le portail nord, qu'on appelle portail de l'évêché, puisqu'il ouvre en direction du palais de l'évêché. Et en face, il y a le portail sud. Voilà, ce sont les deux seuls endroits, les deux seuls portails par lesquels on accède dans la cathédrale de Rodez. Tous les deux ont un traitement différent. Tous les deux ont été réalisés à peu près à la même époque, deuxième moitié du XVe siècle. En revanche, tous les deux ont perdu leur sculpture, leur statue. Donc il faut imaginer ces portails à l'origine, ornés de toutes leurs statues, des portails qui étaient peints, enfin du moins pour celui-ci, on a quelques traces de peinture. Si on regarde à l'intérieur des niches, donc c'est petits emplacements où étaient placées les statues. Si on regarde à l'intérieur, au niveau des dés, donc ces sortes de petits toits qui couvrent la niche, on a encore des traces de peinture bleue, ocre, rouge. Donc il faut imaginer ce portail paré de toutes ces sculptures entièrement peintes. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Alors pour le portail qui est ici, donc toutes les statues qui se trouvaient dans les niches en bas ont été retirées à la Révolution française, puisqu'à la Révolution, donc on s'attaque à tous les symboles de la monarchie, mais également symboles de la noblesse, du clergé, de la religion. Donc on va retirer les statues qui se trouvaient là. Et dans les parties hautes, alors dans ce qu'on appelle les voussures, qui sont ces grands arcs qui couvrent le portail, on a décapité tous les personnages. Alors on distingue encore des ailes, des personnages ailés, donc on avait sans doute des anges qui étaient représentés pour une partie dans une des voussures. Donc on a décapité les personnages, et au-dessus de la porte, à l'aide d'un marteau et d'un burin, on peut imaginer qu'on a effacé les scènes qui étaient représentées. Au niveau du linteau et au niveau du tympan, on a complètement gommé les scènes qui étaient représentées là.
Bon, écoute, c'est joli quand même, hein.
Voilà.
Bon, tu veux rentrer ?
On va rentrer.
Alors nous voilà de retour dans la cathédrale.
Voilà, nous sommes entrés dans la cathédrale Notre-Dame, hein, comme à Paris. Ici, nous sommes à la croisée du transept. Donc le transept, cette partie, on a, on va dire, la nef, qui est cette partie tout en longueur où prennent place les fidèles, le chœur, de ce côté, et ici, cette partie-là, donc on est au centre de la cathédrale, on est à la croisée du transept. Et ici, on a d'ailleurs une très belle vue sur la façade ouest, vue de l'intérieur, et là, on voit bien donc ces deux ouvertures très minces qui vraiment ressemblent à des archères. Donc là, c'était la partie qui était comprise dans les remparts de Rodez. Alors cette cathédrale, ce n'est pas la première cathédrale qu'on a construite à Rodez. Elle est venue remplacer une précédente cathédrale qui s'est écroulée en 1276.
Ah, ils n'avaient pas bien construit le machin.
Ou peut-être que c'était un peu ancien. Toujours est-il que le clocher, on raconte que le clocher s'est effondré sur lui-même et du coup qu'il a complètement éventré la cathédrale qui se trouvait ici avant celle où nous sommes aujourd'hui. Donc on a lancé la construction de cette nouvelle cathédrale pratiquement un an après, en 1277. On pose la première pierre de cette cathédrale le 25 mai 1277 exactement. L'évêque qui lance ce chantier, l'évêque de Rodez, s'appelle Raymond de Calmont. Il appartient à la famille de Calmont-Calmont-Dolt. D'ailleurs, au-dessus d'Espalion, on peut encore aujourd'hui voir les vestiges du château de Calmont. Donc Raymond de Calmont qui appartient à une famille de la noblesse rouergate, et donc c'est lui qui va lancer le chantier. Très certainement, lorsque cet évêque lance le chantier, il doit savoir qu'il ne verra pas sa cathédrale achevée. Alors en général, on a des cathédrales gothiques qui peuvent être construites en 50, mais on va dire que c'est autour de 80-100 ans. À Rodez, on a fait plus fort, puisqu'il a fallu près de 300 ans pour achever la cathédrale. Alors c'est long parce que la cathédrale est grande, elle mesure 107 mètres de long, ce qui en fait une des plus grandes cathédrales du sud de la France. Donc bien évidemment, une cathédrale aussi grande demande du temps, demande de l'argent également. Et puis il se trouve que durant les travaux, durant le chantier, eh bien, la ville va connaître des périodes difficiles qui vont ralentir ou même suspendre la construction. Alors c'est le cas pendant la guerre de Cent Ans, par exemple. Durant la guerre de Cent Ans, on va notamment construire le rempart. Donc le chantier de la cathédrale va être ralenti. On va connaître aussi des périodes d'épidémie, c'est la peste noire, par exemple, au XIVe siècle. Et puis il y a aussi des périodes de crise économique. dès le Moyen-Âge. C'est vrai que la crise économique, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais au Moyen-Âge aussi, on a des périodes de crise économique, donc ralentissement économique qui va se répercuter sur le chantier. Et en fait, il faut vraiment attendre le 15e, 16e siècle pour enfin achever la cathédrale. Nous sommes à une époque, du milieu du 15e au milieu du 16e siècle, on parle parfois du siècle d'or de Rodez. C'est l'époque où la ville va être très prospère grâce aux foires, entre autres, qui se tiennent dans le bourg. Donc voilà, c'est à cette époque-là qu'on achève véritablement la cathédrale. Alors ici aussi, on a une très belle vue sur l'orgue de la cathédrale.
C'est spectaculaire.
Le grand orgue, oui, oui, oui. Alors c'est vrai qu'il est très imposant. Le grand buffet, alors on parle du petit buffet ou le positif, qui est la partie la plus proche de nous.
Ouais.
Et le grand buffet, c'est tout ce qui se déploie derrière. Le grand buffet, il mesure plus de 20,5 mètres de hauteur.
Ouais.
Et d'ailleurs, si on regarde, il se prolonge par toute une série de sculptures,
c'est
un ensemble sculpté.
C'est du bois,
alors c'est du bois. Le buffet, toutes les boiseries, c'est du noyer. Et toutes les boiseries, elles ont été réalisées au XVIIe siècle, entre 1608 et 1631. En revanche, en ce qui concerne l'instrument lui-même, notamment les tuyaux,
ouais.
Donc il faut savoir qu'il y a en tout 3155 tuyaux. On ne les voit pas tous, on ne voit que les tuyaux de façade.
Ouais.
Et sur ces 3155 tuyaux, on estime que seulement 5, voire 10% seraient d'origine. Tous les autres ont été changés à différentes époques. Changés, remplacés, mais en tenant compte des normes. Ce qui fait que le son de cet orgue, c'est le son d'un orgue du XVIIe siècle. Donc c'est vrai qu'il est impressionnant par le son qui s'en dégage, mais aussi par son décor, hein, ses sculptures. Donc au niveau des boiseries, on a énormément de petits personnages et sculptures. On a des petits angelots qui apparaissent. On a ce qu'on appelle des mascarons, qui sont ces visages un petit peu grimaçants. Des guirlandes de fleurs. Et puis on retrouve également des statues qui font référence à la Vierge. Alors notamment au niveau du positif, donc le buffet le plus proche de nous. Au centre, on a une statue de la Vierge.
Ah ouais.
On retrouve de nombreuses références à la Vierge Marie, hein, puisque la cathédrale lui est consacrée. De part et d'autre de la statue de la Vierge, là, sur le positif, on a deux personnages en costume d'évêque.
Ah.
Alors d'un côté, il y a Saint Martial et de l'autre, Saint Amand. Saint Martial et Saint Amand qui sont considérés comme les évangélisateurs du Rouergue. Pour terminer sur l'orgue, plusieurs petits personnages. Au sommet, on a un ensemble avec plusieurs anges. On voit bien leurs ailes déployées. Au centre, la Vierge Marie, encore une fois, qui est emportée dans les cieux par les anges. Mais on a aussi deux petits personnages qui jouent des instruments de musique qui sont placés au niveau du grand orgue. Voilà, d'un côté, on a un personnage avec une couronne qui joue de la harpe. Et en face, on a un autre personnage qui lève légèrement les bras. Alors, le personnage qui est à gauche, qui joue de la harpe, c'est le roi David.
Ah !
Et voilà.
Il est beau, hein ?
Et en symétrie, par rapport à lui, le personnage qui se tient, donc qui lève légèrement les bras, c'est Sainte Cécile. Et on pense qu'à l'origine, elle tenait entre ses bras un orgue portatif. On a en fait deux statues qui font référence à la musique et aux musiciens. Le roi David, Sainte Cécile, ce sont des saints patrons des musiciens. Et Sainte Cécile, c'était même la protectrice des organistes et des facteurs d'orgue. Autre ensemble très impressionnant, c'est le chœur. Donc on a conservé en grande partie le chœur des religieux, notamment les stalles. Donc les stalles sont ces grands sièges de bois qui étaient réservés aux religieux, aux chanoines de la cathédrale et à l'évêque. La nef, c'était pour les fidèles. Le chœur, c'était pour les religieux. Ces stalles, elles ont été réalisées à la fin du XVe siècle, entre 1480 et 1488, par un atelier de 7 sculpteurs qui était dirigé par un maître sculpteur qui s'appelait André Sulpice, qui a beaucoup travaillé en Aveyron, notamment si on va à Villefranche de Rouergue. Dans la collégiale de Villefranche, il y a également des stalles qui ont été réalisées par Sulpice. Donc là, on a un ensemble aussi qui est très impressionnant, très décoré, notamment si on regarde les dorsaux, donc qui sont ces grands dossiers qui s'élèvent derrière les stalles, les dés qui couvrent les dorsaux, donc les dés, hein, D-A-I-S, qui couvrent les dorsaux. On a des éléments qui sont très décorés, de manière très très minutieuse, très précise. On a un peu... Le bois est percé à jour, en fait. Hein. Donc, on a des choses qui sont très, très fines. On trouve au niveau de ce qu'on appelle les jouets, donc ce sont les extrémités des stalles, on retrouve, quand on est ici, sur la droite, une statue de la Vierge, et sur la gauche, un ange, l'ange Gabriel. Et si on les regarde de près, vraiment, on a vraiment des sculptures qui sont très, très fines. Mais également, ce que cet atelier s'est amusé à décorer, c'est ce qu'on appelle les miséricordes. Alors, les miséricordes, c'est une partie des stalles. En fait, les stalles, là, telles qu'on les voit, elles sont relevées. Si on veut s'asseoir, il faut tirer sur l'abattant, sur l'assise. On peut s'asseoir.
Ah oui, c'est comme des strapontins.
Voilà, c'est le même principe que le strapontin. Et quand on se relève, eh bien on relève également l'abattant. Et en relevant l'abattant, l'assise, il y a un petit rebord qui apparaît. C'est ce rebord qu'on appelle une miséricorde, qui servait tout simplement aux religieux qui assistaient aux offices et qui devaient rester debout durant les offices. Ça leur servait à se reposer, à s'appuyer. Et en fait, on appelle ça une miséricorde par pitié pour ces chanoines, pour ces religieux qui devaient donc rester debout durant les messes, durant les offices. Et sur chacune des miséricordes, on a des motifs différents.
Ouais.
Alors on trouve des personnages, notamment les stalles qui se trouvent à chaque extrémité. On a des personnages féminins à chaque fois qui sont représentés. On a des visages de femmes qui sont représentés. On trouve des motifs végétaux, des feuilles parfois recourbées, donc ce qu'on appelle du chou frisé. On a également des motifs qui représentent des animaux.
Là, il y a une bestiole qui tient un oiseau dans la bouche.
Voilà, donc on a des animaux familiers, animaux domestiques. On a également des créatures fantastiques, imaginaires, parfois tirées de la mythologie gréco-romaine. Là, du coup, c'est étonnant parce qu'on est ici dans la partie la plus sacrée de la cathédrale, puisque l'autel majeur, l'autel cathédrale, se trouvait à l'extrémité. Donc, on ne pourrait s'attendre, dans ce chœur, à ne trouver que des représentations religieuses. Or ici, on a donc ces scènes tirées de la vie quotidienne ou ces créatures imaginaires, fantastiques. Donc c'est assez étonnant, mais en fait l'explication, elle est toute simple. Les stalles, ce sont des sièges. Donc elles sont destinées, on s'assoit dessus.
Oui, donc au sens, voilà. Aussi, au sens figuré.
Voilà, donc bien évidemment, si on s'assoit dessus, on ne va pas représenter une scène religieuse.
Ah oui.
Parce que on s'assoit dessus tout simplement. Et voilà pourquoi dans certains chœurs, dans certaines stalles qui sont encore conservées en France, on a parfois des scènes extrêmement osées, qui sont très déroutantes compte tenu du lieu où elles se trouvent, mais l'explication c'est parce qu'on s'assoit dessus.
Et alors la disposition là, donc il y a tous ces beaux sièges, je ne sais pas combien il y en a qui sont les plus beaux, les plus travaillés, ensuite il y en a d'autres qui sont un peu moins, mais enfin qui sont encore sculptés dans du bois.
Les stalles hautes, donc les stalles qui sont les plus en hauteur, il y en a une soixantaine environ, ouais. Sont du 15e siècle. Les stalles basses, en revanche, ne sont pas de la même époque. Vraisemblablement, elles sont du 17e siècle et elles auraient été achetées après la Révolution française. Il faut imaginer que le chœur, aujourd'hui, il est ouvert, on le voit, mais à l'origine, le chœur était fermé par un mur de clôture qui est toujours en place sur une grande partie. Et ici, à l'endroit où nous sommes, il était fermé par ce qu'on appelle un jubé. Ce qui fait que la nef et le chœur, donc la partie réservée aux fidèles et la partie réservée aux religieux, étaient strictement séparés.
Mais c'est fermé un mur opaque ou avec
c'était
des
fermé.
Trous ?
Alors le jubé, qui se trouvait donc là où nous sommes, il a été déplacé. On a une bonne idée d'un chœur entouré de sa clôture et de son jubé si on visite Albi. Le jubé, il a été déplacé au 19e siècle, mais il n'a pas quitté la cathédrale. Il a été démonté et replacé contre la sortie, le portail sud. Donc les trois arcades que l'on voit là lorsqu'on quitte la cathédrale en empruntant le portail sud, c'est ce qu'il reste du jubé qui se trouvait voilà, devant les stalles et qui fermait complètement le chœur des religieux. Avant de faire le tour du chœur, on va aller voir la chapelle qu'on appelle chapelle de Gaillard-Roux, chapelle du Saint-Sépulcre, qui se trouve, quand on part plutôt côté ouest, voilà, on va entrer dans la chapelle qui est là.
Ah bah ouais, alors là c'est tout peint.
Voilà, alors là, dans cette chapelle, il faut s'imaginer au XVIe siècle, on l'appelle chapelle dite de Gaillard-Roux parce qu'on doit notamment la décoration de cette chapelle à un personnage qui s'appelait Gaillard-Roux. Donc tout à l'heure j'ai dit que les habitants de Rodez ont participé aussi à la construction de cette cathédrale. En fonction du niveau de sa fortune, on pouvait participer à des degrés plus ou moins importants. Alors Gaillard-Roux était un chanoine, donc un religieux. Il a financé la réalisation de ce très grand décor, donc l'autel plus le retable, qui est cet ensemble qui s'élève derrière l'autel. Et il l'a fait financer donc sur sa fortune personnelle.
C'est un chanoine riche, hein.
Oui, il appartenait à une grande famille. Alors on raconte qu'il a fait financer cet ensemble pour expier ses péchés, pour se faire pardonner ses fautes.
Ah ben il avait dû en faire de belles.
Voilà, alors après c'est vrai qu'est-ce qu'il a voulu justement financer quelque chose à la hauteur de ce qu'il avait à se reprocher, bon, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il va faire donc réaliser cet ensemble qui est monumental, qui se développe sur trois niveaux. Alors au premier niveau on a donc une table, un autel. Derrière cet autel on a une scène qui représente la mise au tombeau. Donc on aperçoit le Christ qui est allongé, de chaque côté Nicodème et Joseph d'Arimathie, donc qui tiennent le linceul, et derrière le corps du Christ, au centre, on retrouve la Vierge Marie, entourée de deux femmes. À gauche, c'est Saint Jean, qui tient dans ses mains la couronne d'épines, et à droite, on aperçoit Marie-Madeleine, que l'on reconnaît avec ses longs cheveux. C'est assez saisissant, ils sont grandeur nature, on a énormément de détails au niveau des vêtements, au niveau des parures, plus la couleur. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant, hein. Ce groupe sculpté est assez impressionnant. Donc on a cette scène de mise au tombeau au premier niveau, et ensuite l'ensemble se développe en hauteur. Alors au niveau intermédiaire, on a trois petites scènes qui sont liées à la résurrection du Christ. Alors de gauche à droite, on voit le Christ qui se dirige vers une tour noire, nous semble sortir des flammes. Donc cette tour symbolise l'enfer. Donc c'est le Christ qui vient délivrer les âmes des enfers. Au centre, on a le Christ et face à lui Marie-Madeleine. Et la dernière scène, la scène la plus à droite, représentait le Christ devant Saint Thomas. Et ensuite, tout à fait au sommet, le Christ représenté sortant de son tombeau.
Ils sont habillés comme à l'époque où ça a été fait.
Voilà, en revanche, donc là nous sommes au XVIe siècle, c'est vrai qu'on retrouve des références à la mode vestimentaire du XVIe siècle. Et beaucoup de détails au niveau des vêtements, notamment on a pris le soin de bien représenter les plis, des manches bouffantes, au niveau également des ornements, des manches, enfin, on a plein de petits détails. Alors Gaïa Roux, donc, qui a financé ce décor, cet ensemble monumental, il a en quelque sorte pris soin de laisser sa signature. Du moins, il a laissé quelques signes qui montrent qu'il est à l'origine de ce décor.
Péché d'orgueil, le Gaïa Roux, il n'a pas oublié.
Voilà, on retrouve à plusieurs endroits ses initiales. On retrouve GR, notamment au niveau de l'hôtel, donc ouais. On a plusieurs fois GR qui est répété. On retrouve aussi un G et un R juste au-dessus de la scène de la mise au tombeau. Alors, ils sont un peu cachés parce qu'ils sont représentés sous la forme de petits personnages d'arabesques entremêlés. Si on regarde juste au-dessus de la scène, juste au-dessus de la voûte qui couvre la scène de la mise au tombeau, complètement sur la gauche, on distingue un G qui est formé par un petit personnage, une tête également, et le R également en face. Et puis, on a également le blason de Gaïa Roux qui est représenté à plusieurs endroits, un blason qui présente un rosier surmonté de trois étoiles que l'on retrouve au niveau de l'hôtel, que l'on retrouve également au-dessus de la scène de la mise au tombeau.
C'est vrai que c'est beau.
Alors là, maintenant, on va revenir sur nos pas et on va faire le tour du chœur. Alors, dans cette partie-là de la cathédrale, bien sûr, on retrouve les vitraux contemporains de Stéphane Belzer, sur lesquels je ne reviendrai pas puisque je crois que ma collègue... Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que dans la cathédrale de Rodez, on a des éléments qui vont de la fin du 10e, début 11e siècle jusqu'à nos jours.
C'est quoi qui date du fin 10e siècle ?
On va passer
dedans. On y va.
Alors, quand même, au passage, quelques mots sur les fresques. Dans cette partie-là, on a des fresques qui ont été mises au jour. Alors, sur le mur de clôture du chœur, on a la fresque dite de Saint-Éloi, qui raconte la vie de Saint-Éloi. Ce qui est amusant, c'est que cette fresque, c'est un peu une bande dessinée du Moyen-Âge, puisqu'on a des scènes dans différentes, dans des cases, un peu comme des vignettes. Et vraiment, ça se lit comme une bande dessinée. La seule différence, c'est que les personnages ne parlent pas.
Non,
on n'a pas les bulles.
Pas les bulles.
Mais au-dessus des différentes scènes, des différentes vignettes, on distingue encore des lettres noires, donc un texte. Et donc ce texte, à chaque fois, explique ce qu'il se passe en dessous. Et le texte est écrit d'ailleurs en Languedoc. Il n'est pas écrit en latin.
Donc là, c'était vraiment à destination donc, de tous des gens.
Que ce soit les fresques, que ce soit les vitraux, étaient utilisés pour enseigner... Pour faire le catéchisme en quelque sorte aux fidèles qui dans leur très grande majorité ne savaient pas lire, donc on utilisait les images pour leur enseigner la vie de Jésus, des saints et des saintes. Là on a cette fresque consacrée à Saint-Éloi. En face, dans la chapelle qui se trouve en face, on a également quelques vestiges de fresques qui ont été mises au jour. On a des petits personnages, on distingue des cortèges de personnages. Et la fresque se prolonge au niveau de la voûte, donc le plafond de la voûte aussi, les voûtes étaient peintes. Nous sommes dans la chapelle axiale, la chapelle d'axe, qui se trouve en fait dans l'axe du cœur de la nef, dans l'axe de l'autel. Nous sommes ici dans les parties les plus anciennes de la cathédrale, donc on a commencé par construire la cathédrale ici. Et c'est également ici que se trouve l'un des éléments les plus anciens qui remonte à la cathédrale précédente. Alors cet élément, cette grande plaque de marbre blanc qui est fixée au mur, en fait cette grande plaque de marbre blanc, c'est l'ancienne table d'autel qui se trouvait donc dans la précédente cathédrale qui a disparu en 1276. La cathédrale donc, c'est écroulé en 1276, donc normalement la table d'autel qui se trouvait dans le cœur de cette précédente cathédrale n'aurait pas dû nous parvenir. Mais il se trouve que quelques semaines avant que la cathédrale ne s'effondre, l'évêque avait ordonné que la table d'autel soit démontée et qu'elle soit mise à l'abri. Ce qui fait qu'elle nous est parvenue aujourd'hui. Alors là, on a la table. Au musée Fenaille, il y a 4 colonnettes en marbre qui sont conservées, qui sont exposées. Et très vraisemblablement, ces colonnettes supportaient la table qu'on a conservée là. Alors il faut savoir que la partie, elle est peinte en son centre. On retrouve une représentation de la Vierge, une Vierge à l'enfant. De chaque côté de la Vierge, 2 anges qui présentent des fleurs de lys, la fleur de lys qui sont les symboles de la Vierge Marie. La peinture, elle remonterait plutôt au XVIIe siècle.
Ouais, moi, je trouve qu'ils ont des coupes...
La table d'hôtel n'était pas peinte. Mais en revanche, tout autour de la table, on a des éléments, des motifs qui, en fait, font référence à des motifs antiquisants, presque. Il est possible que ce marbre est un marbre qu'on a réutilisé, peut-être d'un sarcophage antique. Ça se faisait tout à fait. Vraiment un élément très ancien, et c'est le plus ancien que l'on peut voir dans la cathédrale. Et aujourd'hui, donc, cette table d'autel, elle surplombe l'un des gisants. On peut voir plusieurs gisants dans la cathédrale de Rodez. Le tombeau d'un des évêques de Rodez, entre autres ici, il s'agit du tombeau de Gilbert de Cantobre. Les évêques qui étaient inhumés dans la cathédrale faisaient ériger des sculptures, ils faisaient réaliser des sculptures. Leur tombeau n'était pas de simples tombeaux, ils étaient ornés. Et ce qu'on appelle le gisant, donc c'est ce personnage qui est représenté donc à l'image de l'évêque, avec le costume, la coiffe de l'évêque. Donc ici, on en a un qui se trouve dans cette chapelle, mais on en a plusieurs autres de différentes époques. D'ailleurs, on en a quelques-uns du Moyen-Âge, mais il y en a d'autres également du 19e siècle qui sont conservés.
On termine avec quoi, Annabelle ?
On va ressortir par le portail sud. On aura parcouru une partie seulement de la cathédrale, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette cathédrale. Donc elle mérite que l'on s'y attarde.
Quand tu l'as fait visiter plus sérieusement, on va dire, c'est une visite qui dure combien de temps ?
Alors la visite de la cathédrale et du quartier autour de la cathédrale, il faut compter à peu près 1h15 de visite. Et c'est une visite, enfin on découvre aussi la cathédrale dans la découverte générale de la ville, la visite du centre historique, qui elle dure 1h45 à 2h.
Et des visites qui se font ?
Alors la visite du centre historique se fait tous les vendredis matin. D'accord. À 10h, juillet et août donc. Mmh. Et ensuite on propose des visites à la demande pour des groupes. Voilà, c'est organisé toute l'année en fonction de la demande des groupes.
Toutes les infos pour des visites à la demande, on vous contacte à l'office de tourisme du Grand Rodez.
Office de tourisme.
05 65 75 76 77.
C'est ça.
Ou alors on vient vous voir à l'office de tourisme de Rodez, évidemment. Ah, ça fait bizarre toute cette lumière d'un coup là.
Voilà, donc là on est ressorti par le portail sud, portail qui lui est réalisé en grande partie en calcaire.
Ah, ils n'ont pas pris de grès.
Pierre de calcaire, donc là on retrouve. Alors l'ensemble c'est du grès, mais enfin, on va dire autour du portail c'est du grès, mais le portail en lui-même, en grande partie, on a des éléments en calcaire. Et ce portail ouvrait en direction du quartier des religieux, les chanoines, donc ceux qui prenaient place dans les stalles du chœur. Les chanoines avaient leur demeure, leur résidence dans cette partie-là de Rodez. D'ailleurs, il existe encore une maison qu'on appelle maison canoniale, qui appartenait au collège des chanoines, qui est la maison qu'on aperçoit au début de la rue Pénavert, qui est séparée de la rue par un portail décoré de deux petites tourelles. On peut entrer dans la cour intérieure de cette maison pour y découvrir un puits décoré avec les symboles des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.
Ben merci beaucoup, Annabelle.
Mais avec plaisir.
On te retrouve, j'espère, très bientôt pour d'autres visites.
Pour découvrir Rodez et peut-être aussi le Grand Rodez. Surtout le Grand Rodez, il y a beaucoup de choses à découvrir.
Eh ben, on n'a pas fait le tour. Voilà. Je te remercie beaucoup. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
À très bientôt.
CFM. Such a lonely day. Shouldn't exist. CFM.
Qu'est-ce qui t'a pris d'aller mourir à Rimini?
CFM.
Chaque jour se lève